7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. C'est le rendez-vous des tchatcheuses aujourd'hui, vous connaissez le système. Comme chaque mois, je reçois trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix. Veijou Naravan, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, tchatcheuse indienne. Bonjour Veijou.
Bonjour.
Morning.
Morning.
Et dans quelle autre langue ?
Namasté.
Vous vivez entre New Delhi et Paris et vous travaillez entre autres pour la BBC. On est ravis de vous accueillir de nouveau dans le studio des 7 milliards de voisins. Ana Navarro Pedro, bom dia Ana.
Bom dia.
Correspondante pour l'hebdomadaire portugais Visao. Samira Ibrahim, notre tchatcheuse arabophone, présentatrice à Monte Carlo d'Oualia. Salam alaikum Samira.
Wa alaikum salam Emmanuel.
Les impertinentes.
Les impertinentes.
En arabe ça donne.
Les charciades de Paris.
C'est ça.
Les impertinentes, c'est ehna wentou bas.
Vous allez nous faire partager toutes les trois vos coups de gueule, vos coups de cœur, en toute liberté. Et quant à vous les voisins, bien sûr, vous avez le droit de poster vos commentaires sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Facebook et Twitter. Les filles, ah oui, je voulais aussi vous le signaler, vous avez une spéciale dédicace tchatcheuse de Djibril Akai au Mali. Attention, attention, nous dit Djibril, elle trône sur le micro. Accrochons-nous, ça va trembler. Des voix sublimes, belles, complices, éducatives, nous captiveront une heure durant.
Oh là. Wow. Là, il est sympa, Djibril.
Ah, c'est
salut,
formidable.
Djibril.
Allez, j'ouvre cette illuminée.
Big up pour Djibril.
C'est parti, le rendez-vous des tchatcheuses.
Oh, shit.
C'est possible?
Conversation entre des pompiers qui arrivent sur les lieux du drame et se rendent compte qu'il s'agit bien d'un immeuble d'habitation. Ana Navarro, vous souhaitez revenir sur ce terrible incendie de la tour Grenfell à Londres mercredi dernier. Et puis cette adolescente, Inès Alves, rescapée des flammes avec ses parents et son frère. Incendie qui a fait 79 morts.
Un incendie qui n'aurait pas dû exister, qui est le fruit, mais je pense qu'on le verra après, de l'incurie et de l'indifférence des pouvoirs publics vis-à-vis des plus pauvres. Et parmi ces plus pauvres, il y avait cette famille portugaise. Il y a toujours cette famille portugaise, immigrée, échappée de l'austérité au Portugal, essayant de se refaire une nouvelle vie en Angleterre. Et la petite Inès, elle a 16 ans, je crois.
Oui.
Elle a été sauvée des flammes par son père, qui a vu le début de l'incendie. Je vous raconterai aussi, je le fais tout à fait par hasard. Il est entré dans l'immeuble, il rentrait d'une soirée avec sa femme qui était restée dehors, je ne sais pas faire quoi. Et il rentre, et il y a un ivrogne de l'immeuble qui rentre avec lui, complètement ivre-mort, et il donne un coup comme ça dans les boutons de l'ascenseur, et par hasard, ça tombe sur le quatrième étage. La porte s'ouvre au quatrième étage et il voit des volutes de fumée. Et ils comprennent qu'il y a un problème. Alors, Miguel Alves, le père de la petite, il pense vite, il monte jusqu'au 13e étage, il va réveiller, va chercher ses deux enfants, un fils et une fille, Inès, et leur dit, partez, il y a un incendie. Il reste, lui, les enfants partent. La petite, elle prend juste quelques vêtements et ses notes, les notes qu'elle révisait pour un examen le lendemain.
De chimie.
De chimie, pour l'équivalent du brevet des collèges. Et le père, il reste dans l'immeuble et il va frapper à toutes les portes qu'il peut pour alerter tout le monde. Et du coup, il a sauvé énormément de vies parce que s'il n'avait pas fait ça, beaucoup de gens seraient encore pris plus dans cette fournaise, dans cet enfer. Et donc, il quitte l'immeuble et le lendemain, la petite... Elle va passer son examen. Elle en avait été dispensée par les autorités qui savaient son drame. Elle n'avait plus rien. Elle avait ses notes et les vêtements qu'elle a sur le corps. Mmh. Eh bien, elle en a été dispensée. Eh bien, elle est allée passer son examen. On ne sait pas encore les notes, mais probablement elle aura eu peut-être une très bonne note.
Les études plus importantes.
Les études plus importantes, mais pourquoi les études plus importantes? Parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ont tout perdu au Portugal. Ils ont tout perdu là-bas en Angleterre. Et parce que dans cette austérité, dans cette politique vraiment d'une brutalité terrible avec les gens qui ne sont pas au sommet des 1%, eh bien, la seule façon de s'en sortir, c'est par les études. Et elle sait que malgré les éléments qui se déchaînent contre elle, contre sa famille, c'est la seule façon pour elle de survivre à l'avenir.
Évidemment, les polémiques vont bon train, et les politiques aussi d'ailleurs, hein, depuis le drame. Un accident évitable, a déclaré le maire de Londres, Sadiq Khan. C'est votre point de vue, Veijou Naravan. Vous ne décollerez pas en ce moment contre le Royaume-Uni, je crois.
Ah oui, je trouve ça absolument intolérable parce que les Tories, les gouvernements et aussi New Labour, hein, les conservateurs et les travaillistes, ils ont eu ce grand dada parce que pour eux, le règlement était devenu l'ennemi public numéro un. Il fallait couper le règlement, il fallait libérer, donner les libertés. Avec le résultat que quand on a, il y a des règlements qui sont mis pour la sécurité des gens, etc., on ne doit pas le voir comme un inconvénient qui empêche la liberté. En plus, on s'est rendu compte que c'était l'industrie de la construction qui a donné des milliers de livres comme donation aux partis politiques en Angleterre en 2015, juste pour avoir cette liberté d'employer
moins de normes pour les constructions, moins de
réglementation. Et c'est ça qui me remplit de colère, mais aussi le fait, j'ai entendu un entretien fait par une journaliste extraordinaire de la BBC avec Theresa May. Elle lui disait: est-ce que c'était prévenible? Vous n'étiez pas là. Les questions étaient extraordinairement pointues. Et Theresa May, avec cette épouvantable langue de bois, qui continuait à esquiver les questions et à ne pas répondre. Elle a mis, après la drame, 72 heures pour dire que la réponse n'était pas adéquate. Moi, je trouve ça absolument scandaleux qu'il n'y a pas de remords. Et puis, on se voit maintenant que les gens avaient, mais d'une manière incroyable, ne pas respecté des règlements.
C'est vrai qu'il y a une incompréhension, comme vous dites, une intolérance, parce que on se dit que c'est intolérant, c'est intolérable ce qui s'est passé, parce que
dans un pays riche,
oui,
c'est
parce
surtout
que
ça.
On a l'impression qu'il y a une démission des politiques, et de l'autre côté, on est face à un peuple, une population, des citoyens qui ont totale confiance, parce que je me rappelle de ce couple d'Italiens, par exemple, pendant des heures durant, ils communiquaient avec leur famille, ils pensaient vraiment qu'ils allaient être sauvés, ils pensaient vraiment qu'on allait leur venir en aide. Et en fait, on a l'impression qu'il y a toute une partie des citoyens qui sont complètement laissés pour compte, qu'on a complètement oublié, et on ne veut plus du tout en être responsable.
Les
c'est
plus
vraiment
pauvres.
Incroyable.
Les plus pauvres, ça n'intéresse personne à ces niveaux-là.
Aux États-Unis, il y a des incendies dans des logements, notamment dans des ghettos d'immigrés, etc., très, très régulièrement. Les constructions sont de piètre qualité, à base de fibres de bois, et les logements prennent feu extrêmement.
Mais ce qui choque, c'est dans le bar de Kensington, qui est un des boroughs les plus riches, les quartiers les plus riches de Londres même. Et juste à côté, il y a des grands appartements, des cheikhs arabes et tout ça. Et devinez qui est le membre de parlement depuis cette borough? C'est Theresa May, la première ministre de Britannique.
Et puis quand il y a une tour HLM de loyer modéré pour les plus pauvres dans un quartier pareil, et bien on enveloppe ça en plastique.
Il y avait quand même plus que 6 mois de mise en garde, les appels répétés, plus que 70 lettres écrites au council pour dire qu'il y a un problème, il peut y avoir un feu, et tout ça a été absolument et totalement ignorer,
et qu'il aurait
c'est
fallu
ça qui
investir plus dans la construction. Bon, c'était le coup de gueule de Vejjuna Ravan. Samira Ibrahim, le ramadan et les non-jeûneurs, ou les déjeuneurs d'ailleurs aussi, comme ils se font parfois appeler, ce sont ceux qui refusent de jeûner. Vous souhaitez y revenir. Chaque année, il y a des débats là-dessus.
C'est la polémique, en fait, qui revient chaque année, qui fait le buzz. Et donc, cette fois-ci, c'est en Tunisie, mais en même temps, c'est une polémique qui est étonnante, parce que, nous le savons bien, dans tous les pays arabo-musulmans, il y a aussi des gens qui ne jeûnent pas. Et ça posait moins de problèmes avant.
Mais ils ne le font pas forcément avec une... Quand même, là, il y a quand même une volonté caractérisée de provocation.
Non, là, on le fait savoir. En fait, c'est plus... Ce n'est pas tant de la provocation une idée de se dire je ne jeûne pas, mais j'ai le droit de le vivre. C'est-à-dire que tout est parti par à travers en tout cas l'histoire de gens qui veulent boire, manger pendant le ramadan et qui se trouvent mis à l'index. En fait, c'est ça le problème. C'est pas du tout une polémique pour une polémique. C'est pas des gens qui ont décidé...
Sachant qu'en Tunisie, aucune loi n'interdit réellement de manger ou de boire en public pendant le ramadan.
Exactement,
contrairement à d'autres pays.
Et la constitution tunisienne garantit les libertés liberté, la liberté de croyance et de conscience, mais l'État doit aussi être le gardien de la religion. Mais au-delà de ça, chacun est libre de pratiquer. Et de toute façon, personne ne peut vous obliger à être croyant, à croire. Enfin, la liberté de conscience est quand même évidente. Vous ne pouvez pas rentrer dans le cerveau des gens pour savoir s'ils sont véritablement croyants ou pas. Et en dehors du fait d'aller prendre un verre, un café ou se restaurer, vous pouvez aussi le faire chez vous. Ce n'est pas vraiment de la provocation. C'est ce que les islamistes veulent faire croire. Que les non-musulmans, en tout cas ceux qui ne jeûnent pas, veulent provoquer. Non, il s'agit même plus.
Parce qu'on n'est pas obligé non plus de manger et de boire en public. On peut avoir une petite bouteille d'eau dans son sac et on peut aller déjeuner dans un lieu privé.
Un pays comme la Tunisie, qui est un pays ouvert, qui accueille des non-musulmans, il y a aussi des gens qui ne pratiquent pas l'islam. Ont-ils le droit de boire et de manger pendant le mois du Ramadan ? Ou est-ce qu'on est tous obligés d'être logés à la même enseigne ? Dans la religion musulmane, il y a des gens, des musulmans pratiquants qui ne peuvent pas faire le Ramadan parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont leur condition physique ne le permet pas.
Ceux-là ne sont pas visés.
Oui, mais alors comment vous faites la différence ? Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une cinquantaine de personnes a manifesté le 11 juin pour dire que ça suffisait maintenant, pour défendre tout simplement le droit de manger et de boire en public durant le Ramadan, dire qu'il fallait aussi réclamer justement le respect des libertés individuelles et dénoncer l'arrestation de non-jeûneurs, parce qu'ils étaient tabassés, ces non-jeûneurs. Il y a aussi, ce sit-in a été fait devant le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Pourquoi ? Parce qu'en Tunisie, aujourd'hui, la Tunisie traverse une phase quand même très problématique. Il n'y a plus, économiquement, il n'y a plus d'argent. Et c'est un pays très touristique. Il était, en tout cas. Si vous fermez tous les bars, tous les cafés, on ne va pas dire les bars, tous les cafés et tous les restaurants, parce que c'est le mois du Ramadan. Vous faites comment ? C'est-à-dire que vous dites que les touristes ne sont pas les bienvenus. Donc en fait, c'est ce que disaient aussi ces jeunes Tunisiens. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que dans ces manifestations, il y avait des jeûneurs. Il y avait des jeûneurs d'un certain âge, dont une personnalité assez connue, M. Kamel Djellouli, qui a 75 ans, et c'est un vieux routier de la contestation qui est venu soutenir les jeunes. Donc lui, il connaît très bien la vie politique, il s'est toujours opposé au régime, et lui jeûnait. Il a dit, moi je fais le Ramadan depuis mon plus jeune âge, seulement je suis ici pour soutenir ces jeunes, parce que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et un autre monsieur d'un certain âge aussi, médecin, disait, je suis ici parce qu'il faut vraiment être idiot et ignorant et hypocrite pour forcer quelqu'un à jeûner, ça n'existe pas. Pourtant, lui, il le fait le Ramadan, il jeûne, mais chacun a le droit de vivre sa religion comme il l'entend. Il s'agit pas non plus d'ouvrir des bars, de boire de l'alcool et d'aller à l'encontre de peut-être l'image ou la philosophie du Ramadan, mais chacun a le droit de vivre son islam comme il l'entend.
Bon, Anna Navarro.
Ce qui est très intéressant, c'est la bataille pour les droits individuels dans une société qui n'en reconnaît point, en règle générale. Et ils sont 50 au départ, espérons qu'ils seront des milliards à l'arrivée.
Oui. En 2013, il y avait aussi, un collectif qui s'appelait Fater, donc les gens qui ne jeûnaient pas, qui avaient aussi manifesté. Enfin, tous les ans, ça revient, c'est vrai. Et je vous avais parlé.
Il y a aussi des collectifs comme ça au Maroc, tout les déjeuneurs, etc.
Tu te souviens, Emmanuel, vous avez parlé de l'imam égyptien Mabrouk Atiya qui faisait des prêches. Et lui, dans une vidéo récemment, avait fait ce prêche en disant « Enfin, il faut arrêter. Celui qui ne peut pas jeûner, ne jeûne pas. Il n'y a pas de contrainte en religion. » Un homme de 90 ans qui dit « Dieu va m'aider, va me venir en aide et je vais jeûner. » Il lui dit « Non, Dieu va prendre ton âme. Il ne pourra pas t'aider. » Donc toi,
si
tu ne jeûnes pas.
C'est un imam qui le dit. Alors. Vejouna Ravad, alors justement, vous souhaitez aussi embrayer sur l'intolérance religieuse qui se retourne cette fois contre les musulmans dans votre pays, l'Inde, avec une histoire de mariage annulé à cause d'un plat de bœuf.
Ah oui, c'est extraordinaire. Parce que,
il nous reste 3 minutes avant le flash, hein, je vous le dis tout de suite.
Dans plusieurs états de l'Inde, ce nouveau gouvernement qui est au pouvoir, qui est un gouvernement plutôt hindouiste, nationaliste, ils veulent imposer leur religion sur les autres.
Donc l'interdiction de consommer du bœuf, puisque la vache est sacrée.
L'interdiction d'abattre et consommer le bœuf, parce que la vache est sacrée. Eh bien, il y a 180 millions de musulmans en Inde qui mangent le bœuf, 35 millions de chrétiens qui mangent le bœuf. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de gens de basse caste qui sont considérés comme intouchables ou autres, des castes d'autrefois qui mangent du bœuf.
Oui, parce que les hindouistes, c'est quand même pas loin de 80% de la population.
77% de la population, voilà, mais pour eux, la vache est sacrée. Avec violence. Le problème est que l'Inde n'est pas le pays.
L'histoire du mariage, là, juste, on peut savoir.
Mais ils ont décidé d'annuler le mariage parce que le père de la mariée ne pouvait pas, selon les règlements, et ils étaient très guettés par toutes les foules hindouistes et tout ça, pour voir s'il allait servir le peuple dans le mariage.
Il s'agissait d'un mariage musulman.
Et là, donc, ça pose des problèmes à l'intérieur.
Alors, ça a été. Alors, ça encore, c'est un mariage. Il y a eu aussi un lynchage en septembre 2015.
Il y a eu 20 personnes qui ont été lynchées à mort parce qu'ils étaient soupçonnés, là, dans la dernière année. Pas ces dernières années, dans une année. Et effectivement, je veux dire, ce sont des vigilantes. Vigilant, on appelle ça le vigilantisme de la vache sacrée. Ils se forment en bande, ils disent que nous sommes des sauvegardeurs de la vache sacrée, et qui que ce soit qui essaye de manger du bœuf ou essaye même de transporter une vache est tout de suite soupçonné de vouloir la tuer. Mais ceci dit, l'Inde, c'est le deuxième plus grand exportateur de la viande bovine. Des vaches
quelle
et de buffles.
Donc, quel problème économique, là.
Et ça, ils vont perdre 4 milliards d'euros d'exportation. C'est un paradoxe extraordinaire, mais c'est surtout l'imposition de quelque chose par la majorité au nom de la religion dans un pays qui veut être séculaire. C'est pas un pays islamique, c'est pas l'Israël, c'est pas un pays juif. Voilà, c'est un pays séculaire. C'est pour ça que c'est problématique.
Alors, il y a aussi quelques petites provocations, contestations, provocations en retour. Le festival du bœuf organisé à Ernakulam au Kerala, par des musulmans d'ailleurs.
Par les musulmans et les chrétiens.
Et des chrétiens, voilà.
Et même les hindous, parce que le Kerala, c'est un état
où les déjeuneurs du Kerala. Finalement,
oui,
d'une
voilà.
certaine manière.
C'est et ils ont dit, on ne va pas suivre le truc, c'est les partis politiques qui s'organisent et il y a quand même une résistance. Mmh. Et alors, bravo à ces gens et j'espère que plus en plus de gens vont faire des parties de bœuf.
Vous vouliez faire un parallèle avec la France, je ne voyais pas très bien lequel.
Non, je disais, en France, ce débat autour du burqa, effectivement, a été vu dans beaucoup de pays. Comme si la majorité voulait imposer sur une minorité, qui est la minorité musulmane, c'était la liberté d'expression qui a été contrainte. C'est comme ça que c'est vu, cette interdiction sur le burqa. Et c'est vu comme ça en Inde, c'est vu comme ça...
Enfin, la laïcité à la française n'est pas un concept anti-liberté individuelle. Hein. C'est plutôt pour protéger des libertés individuelles.
C'est vrai, mais ailleurs... C'est pas vu comme ça. C'est vu comme liberticide. La liberté d'une femme de choisir ce qu'elle veut porter.
Oui, bon. La burqa par 37 degrés, je doute que ça constitue un symbole de liberté individuelle.
Mais pour certaines personnes, oui. Si. Donc, oui. je crois comprendre ce que vous voulez dire.
Oui, oui.
C'est que pour nous, c'est juste, la laïcité, c'est ce que vous dites, Emmanuel, c'est pour défendre le droit à chacun d'exister avec sa religion.
En renvoyant la foi dans la sphère privée.
Exactement.
Pour
et c'est vrai
la
que,
liberté de tout le monde.
Mais en même temps, pour l'étranger, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire française, c'est interdire à une femme de s'habiller comme elle envie, même si ça peut nous paraître ridicule de mettre une burqa à 32
Encore
degrés.
Encore un coup de gueule, il n'y a que des coups de gueule pour le moment. Anna Navarro-Pedro, sur les usines de prêt-à-porter d'Ivanka Trump, il nous reste une minute, mais on pourra aussi en reparler après le flash, la fille du président américain.
Et sa conseillère.
Oui, exactement, sa conseillère, parce que évidemment, certains activistes de l'association américaine China Labor Watch ont démontré que ces fameuses usines de prêt-à-porter, ce prêt-à-porter fabriqué en Chine, bon, ça, rien d'étonnant, sauf que...
Alors, beaucoup de choses là-dessus, on n'a pas le temps en une minute, mais d'abord, ces trois activistes ont été arrêtés par les autorités chinoises pour faire plaisir à mademoiselle Trump.
Oui, très curieux, parce que depuis très longtemps, on peut tourner des reportages dans les usines chinoises sur les conditions de travail, tout le monde est au courant.
Et c'est pas parce que Karl Lagerfeld, aussi la marque, fait fabriquer des chaussures là-bas aussi qu'ils ont été arrêtés. C'est parce qu'il y a la marque d'Ivanka Trump et que la Chine et les États-Unis ont des relations un peu difficiles, et donc on ne va pas jeter de l'huile sur le feu, n'est-ce
étonnant
pas
tout de même ce prêt-à-porter fabriqué en Chine quand on est la fille du président America First.
Qui dit qu'il faut ramener les emplois aux États-Unis, n'est-ce pas?
Vous restez
mais
avec
y a
nous les chatcheuses. On se retrouve dans 3 minutes avec...
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI avec le rendez-vous des tchatcheuses, trois femmes journalistes de trois continents pour commenter l'actualité de leur choix avec souvent beaucoup de passion. Ana Navarro Pedro, correspondante pour l'hebdomadaire portugais Visao, Samira Ibrahim, notre tchatcheuse arabophone et présentatrice à Monte Carlo d'Oualia, et Veijou Naravan, tchatcheuse indienne. Désolée Ana Navarro, on vous a coupé juste avant le flash et vous étiez enflammée pour effectivement dénoncer les usines chinoises de prêt-à-porter de la fille du président américain Ivanka Trump, qui fait fabriquer donc son prêt-à-porter en Chine. Ça n'a rien d'extraordinaire, sauf qu'elle est, vous le disiez, également la conseillère du président américain, qui est le symbole du America First. Et puis curieux aussi, parce que ces activistes, vous nous le disiez, l'association américaine China Labor Watch, ont été arrêtés en Chine parce qu'ils enquêtaient sur ces usines, alors que ça fait plusieurs années que nous voyons tous à la télé des reportages sur les usines chinoises et que les journalistes ne se font pas arrêter quand ils filment des usines chinoises.
Exactement. Donc, évidemment, ça pose immédiatement la question des liens d'avoir à la Maison-Blanche et sa famille et de maintenir des affaires importantes dont, soi-disant, on est coupé, mais on sait très bien que ce n'est pas le cas, et d'avoir des contacts avec un gouvernement avec lequel, parfois, on a des relations tendues. Donc, c'est visiblement pour faire plaisir. En plus, ils enquêtaient sur ces usines en spécial parce que le fait qu'Ivanka Trump... C'est ça la question. Est-ce que le fait qu'Ivanka Trump soit là, est-ce qu'elle a imposé des conditions qui sont apparemment parmi les pires dans les usines en Chine? Salaire plus bas que la moyenne, beaucoup plus bas que le salaire minimum, conditions de travail, longues heures de travail, conditions de travail très difficiles, violence verbale faite aux femmes et pudiquement, ce qu'ils appellent pudiquement, violation des droits des femmes sur le lieu de travail. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est Ivanka Trump? On ne sait pas, mais le Guardian, grand journal britannique, est allée enquêter sur des usines où elle fait fabriquer, en Indonésie, où elle fait aussi fabriquer d'autres articles. Eh bien, là, même condition de travail. Les employés sont contents d'avoir du travail quand même, c'est très pauvre, mais ils disent c'est terrible. Et tous avaient entendu parler, surtout les femmes, de son livre sur les femmes qui travaillent, mais extraordinaire, très féministe, n'est-ce pas? D'une frivolité effrayante d'après toutes les journalistes qui ont eu le courage d'en lire quelques pages. C'est pas moi, mon cas, donc je ne peux que répéter.
La tactique Trump.
Mais la vie est trop courte. Mais apparemment, des conditions qui se moquaient en disant mais qu'elles viennent déjà, qu'elles mettent déjà ça en pratique dans les usines où elles nous fait travailler. Donc, c'est quelque chose de népotisme, abus de pouvoir auprès des autorités dans notre pays, contradiction avec ce qu'on dit, ce qu'on promet, ce qu'on fait. Il y a tout
Ivanka
ça.
Bon, Ivanka Trump, là-dedans. En tout cas Wonder Woman, rhabillée pour l'hiver.
Ah.
Hein, est-ce qu'il y a quelqu'un pour la défendre?
Non, je ne suis pas là pour la défendre parce que je trouve qu'elle se montre comme un role model de la femme moderne qui a trois enfants, qui a un mari, qui a cette vie extraordinaire, plus qui a son propre business, qui est la conseillère de son père président. Mais si on va regarder à l'intérieur et on décortique les choses, récemment j'ai vu la conférence de presse d'un des conseillers et ils ont dit d'une manière extraordinairement Salam Alek, il faut qu'on remercie surtout Ivanka Trump qui a fait beaucoup, beaucoup de travail sur l'apprentissage, quelque chose que M. Trump voudrait promouvoir. On voit que c'est beaucoup de verbiage. Il y a même les grands conseillers de Trump qui font les Salam Alek publics à Trump et à Ivanka Trump qui devient obligatoire dans ce régime.
Ça ressemble à la Corée du Nord.
Samira veut défendre Ivanka Trump.
Je vous trouve très dur parce que quand on a une histoire familiale comme celle-là, on pourrait être un petit peu compatissant. Comment voulez-vous? Ça se trouve, son livre, elle ne l'a pas lu elle-même. Donc, il faut être un peu plus sympa avec
nous,
les gens.
Nous, on a la même chose avec les Gandhi et on les vilipende autant.
On passe à un autre sujet, Veijou, on va parler cinéma parce qu'en tout cas, vous êtes notre Wonder Woman à nous, chez les tchatcheuses.
Diana, ce ne sont pas les combats qui font les héros.
Et si je vous promets d'être prudente? Rien qu'un bouclier.
Diana.
À Alors rien de tranchant.
Prends garde à toi dans le monde des hommes, Diana. C'est un monde qui ne te mérite pas.
On m'a fait déjà raconter cette histoire.
Voilà, ça c'est bon. Je ne sais pas, c'est peut-être moins bien en français, évidemment.
Hein. Non, c'est
la bande-annonce du fameux film Wonder Woman qui a cartonné aussi en Inde et en Asie. Blockbuster de Patty Jenkins qui a franchi la barre des 100 millions de dollars aux États-Unis et au Canada. Plus grosse ouverture d'ailleurs pour un film américain réalisé par une femme.
C'est absolument extraordinaire.
Bon, enfin, ce n'est pas elle qui a créé l'histoire, ceci
non,
dit.
Non, hein. Bien sûr
c'est
que non.
C'est une bande dessinée des
oui,
années
exactement.
40.
Mais que le fait qu'il a pris tant d'années pour faire un super-héros film
bon,
où il
alors,
y a effectivement
Inde,
une super-héros.
En Inde, Wonder Woman.
En Inde, Wonder Woman devient le nouveau mantra des femmes. Et il y a beaucoup de femmes qui ont
le bus
adoré,
avec une épée dans le dos, c'est
qui,
ça
qui ont essayé de se photographier avec des saris très sexy, avec une épée dans le, dé,
voilà,
dans
le dos. Pour ceux qui n'ont pas vu le film et les images, hein, donc la fameuse Diana a une espèce d'épée très jolie qui est...
qui elle cache
entre les deux
entre
omoplates.
Les, derrière, wow. Entre ses deux épaules.
Avec
et puis
une robe
elle
très
entre,
féminine.
Exactement. Et puis elle entre pour tuer avec cette arme, en fait.
Tuer les méchants, bien sûr.
Évidemment, les méchants. Oui. Et alors, les femmes en Inde, elles se réjouissent de ça. Et il y a déjà une super production de Bollywood... The Wonder Woman en sari qui est en train d'être faite. Moi, j'aimerais bien voir ça parce que je suis convaincue
ah ouais,
que ça aussi, ça va devenir un blockbuster. Exactement. Sinueuse.
Alors, il y a un hashtag, hein, 2W Got Your Back, qu'on peut traduire par Wonder Woman, assure tes arrières.
Oui.
Et où on peut aussi s'échanger des trucs pour s'habiller à la Diana avec une épée dans le dos.
Voilà, mais bon. Il y a toute une série de photos absolument extraordinaires, sublimes. Mais ridicule. Les deux.
Mais est-ce que c'est esthétique ou est-ce qu'il y a aussi une idée de prise de pouvoir par les femmes de...
Ah ben à l'origine là, la bande dessinée avec son créateur William Marston, psychologue, fervent partisan de la cause féminine, qui disait quand même dans les années 40, hein, avant la Deuxième Guerre mondiale, les femmes vont diriger le monde.
Oui,
je ne sais pas si c'était visionnaire.
Mais c'est un film qui, quelque part, relâche cette espèce d'énergie. Moi, j'ai un étudiant qui vient de faire un film sur les lutteuses indiennes dans un état super conservateur et très, très, très patriarcal. Et c'est les filles qui ont commencé à gagner les médailles aux Jeux olympiques. Et toute la culture est en train de changer parce qu'elles sont les nouvelles Wonder Woman indiennes.
Oh là là là. Bon, on avance, les filles. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres sujets dont vous voulez nous parler, des coups de cœur, des coups de gueule. Une actualité bizarre, Samira Ibrahim, les prénoms occidentaux seraient peut-être menacés d'être interdits en Égypte.
Oui, alors ça aussi, hein, c'est une polémique dont on a entendu parler en Arabie Saoudite et en Égypte. En fait, il y a un comité de députés, donc le comité de plaintes et de suggestions du Parlement égyptien qui s'est réuni le 13 juin. Alors ce sont des gens qui font partie de l'ancienne garde du président Hosni Moubarak. Donc ils sont très conservateurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont à faire de leur temps. On a l'impression qu'ils n'ont pas grand-chose à faire.
Le député Bedi Abdelaziz. Donc.
Exactement, c'est lui qui a eu cette brillante idée. Alors lui, il pense qu'il faut vraiment arrêter de donner des prénoms occidentaux aux enfants pour protéger l'héritage culturel de l'Égypte, comme si on avait vraiment besoin de ça, un pays de 90 millions d'habitants, et puis évidemment avec un pourcentage non négligeable aussi de coptes qui, beaucoup, donnent des prénoms.
Ce sont les 10% de coptes qui sont visés ou pas d'ailleurs dans cette histoire?
Mais c'est ce que beaucoup de gens pensent, et c'est vraiment pas le moment.
Parce qu'ils appellent beaucoup leurs enfants... Il y a un prénom très, très, très usité, Philippe ou non?
Philippe, Jean, Marc, mais disons que... Alors, ce député dit que c'est très compliqué pour l'enfant parce que vous voyez, c'est très difficile à prononcer. Alors Philippe, vous savez, en arabe, il n'y a pas le P, c'est un B. Donc toujours, on a beaucoup
problème. Même en anglais, on dit toujours « the Bible » pour se moquer un peu des Égyptiens qui ne parlent pas très bien l'anglais, parce que c'est toujours un « p » transformé en « b ». Et donc, Philippe, on dit que c'est un peu, on va l'écorcher, c'est compliqué, sauf qu'il y a d'autres prénoms qui sont très simples. Et disons que ce n'est pas le problème, parce que chacun, normalement, a le droit
d'appeler... Alors, il y a quoi derrière tout ça, selon
vous ? Alors, une amende, 49 à 240 euros, ouais, ou enfin, alors, au pire, une peine de prison.
Loi. Elle n'est pas passée, si elle était votée, en discussion. Il y aurait effectivement une amende, voire même une peine de prison avec
énorme
qui
buzz,
quand même incroyable.
Polémique incroyable sur les réseaux sociaux. Donc du coup, on entend parler de ce député et de son groupe. Le groupe, quand même, c'est un comité de plaintes et de suggestions. Ils ont proposé beaucoup de lois assez loufoques, d'ailleurs, notamment sur le Facebook. Tout le monde n'aurait pas le droit, comme ça, d'aller sur Facebook. Il faudrait avoir un droit, une licence.
Alors ça, c'est très bizarre. Ceci dit, vous savez qu'il y a quand même pas mal de pays où il y a des prénoms qui sont interdits. Hein, en France, d'ailleurs, vous ne pouvez pas appeler votre fille sexe. Hein. En Nouvelle-Zélande, il y a des prénoms qui sont bannis, Lucifer, Christ ou Messie.
Oui, bon. Au Danemark, il y a des règles très strictes également. Il y a une liste de 7000 prénoms et vous allez aller à... Vous devez aller piocher dedans. Évidemment, vous avez raison. Mais derrière tout ça, c'est ce
mais
que
c'est
vous
plutôt pour
disiez.
Protéger aussi l'enfant, d'ailleurs, dans ces cas-là, souvent.
Surtout. Mais en Égypte, en fait, on pense que ça n'a rien à voir ni avec la protection de l'enfant, ni avec celle de la culture égyptienne. Mais c'est plutôt pour masquer d'autres problèmes dont on ne parle jamais. Ouais. Parce que la société égyptienne, j'imagine, a d'autres problèmes que.
Donc ça occupe les députés qui n'ont pas assez de travail, c'est ça ?
Exactement.
Selon vous.
Moi, je pense.
Mais en Inde, il y a l'effet inverse, parce qu'avec cette vague de hindouisme, les musulmans se sentent menacés. Les gens sont en train de donner les prénoms hindous dans des familles musulmanes et des prénoms hindous dans les familles chrétiennes. Oui. J'ai un ancien ambassadeur, dont la femme s'appelait Elisabeth, ils sont chrétiennes, elle a changé officiellement son prénom pour devenir Gitanjali.
Ah oui.
Parce qu'elle ne voulait pas être montrée du doigt en disant que tu as un prénom chrétien. Donc
c'est très intéressant ce que tu dis, parce que pendant très longtemps, l'Égypte, surtout la société égyptienne, a été ouverte aux cultures du monde. Il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup de Grecs qui sont venus. Et donc, on avait beaucoup de prénoms très différents. Et souvent, les Coptes, d'ailleurs, donnaient à leurs enfants des prénoms plutôt passe-partout, qui passaient. Karim, par exemple, c'est un prénom qu'on donnait beaucoup aux garçons, parce que pour des questions de discrimination, pour ne pas qu'ils soient discriminés, ou pour ne pas montrer finalement la religion était quelque chose qui était vécu dans la sphère privée. Et d'ailleurs, les gens vivaient en très bonne intelligence, qu'ils soient musulmans, Coptes, ils vivaient très bien. Aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment plus une société, plus de clivage entre les religions et un conservatisme qui n'a pas sa place, je trouve, en Égypte. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'on ne peut pas comparer aujourd'hui l'Égypte avec l'Arabie Saoudite, et c'est vraiment le danger.
Ouais. Et ceci dit, en France, il y a beaucoup de petites filles qu'on appelle Inès, parce que c'est un prénom en fait qui fonctionne très très bien dans la culture musulmane, mais qui n'est pas d'ailleurs stigmatisant, qui n'est pas... Mais en même temps, c'est toujours inquiétant de se dire
Sonia,
que les parents vont choisir un prénom par peur d'une forme de stigmatisation.
Pourquoi devais-je avoir
pragmatisme
dans une société qui est censée d'être ouverte et accueillante?
Elle est censée, mais elle ne l'est pas encore, donc on est pragmatique en attendant.
Non, mais il y a une nette régression. Oui, c'est ça le
c'est
problème.
Vrai.
Il nous reste quelques minutes, Anna Navarro-Pedro. Vous souhaitez poser la question aux tchatcheuses. Que feriez-vous avec la fortune de Jeff Bezos, qui n'est pas si connu que ça, hein, d'ailleurs. Deuxième homme le plus riche du monde. Enfin non, plutôt deuxième ou troisième homme le plus riche du monde.
Deuxième selon Forbes. J'ai vérifié juste avant de venir.
C'est le PDG d'Amazon. Hein.
C'est le PDG fondateur d'Amazon. Et PDG, propriétaire de Washington Post, qu'il a acheté avec ses sous gagnés chez Amazon. Il a 80 milliards d'euros
et
de dollars en fortune. Si, quand même. Il est juste à 7 milliards de Bill Gates, qui est l'homme le plus riche au monde. Juste 7 milliards. Juste un dollar par voisin et voisine. Mais
quel est le problème de Jeff Bezos?
Le problème est le suivant. Il a fait un Twitter. Vous allez sur son compte Jeff Bezos sur Twitter et vous trouvez ça. Il a fait un grand Twitter disant « Je voudrais donner mon argent. Je voudrais faire œuvre donc philanthropique et je voudrais aidez-moi à le dépenser.
Enfin, » Il voudrait être aussi connu que Bill Gates ou Mark Zuckerberg.
Pas que cela. Parce que voyez-vous, cette fibre philanthropique pique de monsieur. Elle est venue à un moment où le New York Times s'apprêtait à sortir un article disant, mais ce type-là est la deuxième plus grande fortune au monde, ils n'ont pas un sou. Ils ont donné 100, il a donné 100 millions de dollars à une université, à une œuvre, etc. Trois trucs à Seattle, c'est tout. C'est quand même, ça fait quand même un peu radin sur les bords. Quoi.
Il devrait vous prendre comme conseiller.
Et là, du coup, il a demandé conseil sur Internet, sur Twitter, ça fait le buzz, évidemment. Alors, il voudrait dépenser l'argent d'une façon qui soit immédiatement visible, mais qui soit à long terme. Il a 41 000 réponses déjà. On va lui indiquer l'éducation, la santé.
Plein d'idées pour lui. La santé, l'éducation, évidemment.
Les vieux.
Oui.
Tous les sujets, de toute façon.
Les orphelinats,
Quelques propositions de nos voisins aussi. Nyang à Saint-Louis qui a posté sur notre page Facebook. Jeff n'a qu'à me contacter. Je vais l'aider à trouver une solution à son problème. Le monde est bizarre. Oui, on est d'accord, Nyang. Doris à Goma. Si Jeff Bezos ne sait pas quoi faire de sa fortune, nous manquons de financement pour notre ONG, nous a écrit Doris. Voilà. On aide les enfants orphelins, les veuves et les filles mères à Goma. Et puis à Brejnev à Brazzaville qui dit il faudrait subventionner l'éducation des jeunes, les ONG. Bref, j'ai plein d'idées pour lui.
Voilà.
Bon, vous restez avec nous, les tchatcheuses. Dans quelques instants, on va
écrivez-lui sur son compte Twitter.
On va l'aider, il a besoin d'aide.
On va donner la parole à un journaliste suédois qui sort un livre remarqué. Le titre, c'est « Non, ce n'était pas mieux avant ». Avis, évidemment, à tous les nostalgiques, les pessimistes, les passéistes. Okay. On l'entendra, ça sera juste après le groupe Internet, The Internet Girl. Ce n'était pas mieux avant. C'est le titre dont je vous parlais, les tchatcheuses, du manifeste pour l'optimisme, signé par un journaliste écrivain suédois, Johan Norberg, qui est publié d'ailleurs aux éditions Plon en France,
en français.
Attendez, il a fouillé les chiffres des différentes agences de l'ONU, de la Banque alimentaire, de grands instituts de recherche, évidemment en quête d'espoir. Mission accomplie, puisqu'il a trouvé 10 bonnes raisons de croire en l'avenir. Alors parmi elles, il y a la perspective d'une croissance verte, écologique, la réduction de la pauvreté sur une partie de la planète, ou encore les progrès de l'alphabétisation. Charlie Dupiot l'a rencontré à l'occasion d'un passage à Paris. Écoutez-le.
En fait, la tendance à long terme est la plus étonnante. Il y a 200 ans, seulement 12% des habitants de notre planète pouvaient lire et écrire. Cela concernait une élite dans les pays riches. Aujourd'hui, 12%, c'est la part de la population mondiale qui ne sait ni lire ni écrire. L'espérance de vie a stagné à près de 30 ans pendant des milliers d'années. Et pendant les deux siècles derniers, elle est passée de 30 à 70 ans en moyenne dans le monde. Nous vivons au cœur d'une ère de nostalgie. C'est presque une explosion de nostalgie. On dirait que les problèmes du présent nous semblent tellement écrasants que l'on commence à regretter le passé, où tout aurait potentiellement été mieux. Je me suis penché sur 10 domaines différents de l'expérience humaine. La santé, la richesse et d'autres. On a vu ces 10 dernières années plusieurs pays africains où l'espérance de vie a augmenté de 10 ans. De 10 ans en 10 ans, vous imaginez? On l'a vu au Rwanda, au Botswana, au Kenya, je crois que les habitants ont gagné 9 ans et demi d'espérance de vie. Il y a 20 ans, on voyait le continent africain comme sans espoir, car 55% des habitants vivaient dans une extrême pauvreté. Eh bien aujourd'hui, ce chiffre est passé à moins de 35%, c'est encore bien trop. Et c'est un chiffre plus élevé que dans toutes les autres régions du monde. Mais nous sommes en train d'assister à un changement rapide. Je crois que cela peut être une autre raison d'être optimiste.
On pourrait vous reprocher d'être idéaliste. Est-ce que vous ne pensez pas que cet optimisme peut vous conduire à vous aveugler sur certaines choses, sur certaines réalités?
N'oublions pas que les chiffres que je vous donne sont des moyennes mondiales. Et bien sûr, il existe toujours des exceptions. Quand on voit les problèmes environnementaux ou de santé, on peut se résigner ou se sentir impuissant et incapable de faire quoi que ce soit. Et si on est trop pessimiste, alors le risque est d'être plus ouvert au discours populiste des leaders autoritaires qui disent simplement « C'est vrai, tout est affreux, le monde tel que nous le connaissions est en feu » et il s'écroule. Mais je vais vous protéger de tout ce mal. Je pense que c'est ça le risque majeur dans le monde d'aujourd'hui.
Et comment vous vous expliquez cette nostalgie ?
Ce qui est intéressant, c'est que quand je demande aux gens de situer cette période où le monde leur paraissait presque idéal, harmonieux, ils mentionnent souvent leur enfance, l'époque à laquelle ils ont grandi. Et je pense que c'est en grande partie psychologique. Quand on est jeune, le monde nous paraît excitant, rempli d'aventures, mais en même temps c'est sécurisant. On s'y sent bien car nos parents s'occupent de nous et nous paient les factures.
Est-ce que ce n'est pas plus facile d'être optimiste quand on vit en Suède, un pays qui est connu pour ses indicateurs économiques très bons, au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE?
Eh bien, je suis devenu optimiste au moment où en Suède, nous avons aussi traversé notre crise des années 90, une terrible récession économique avec un taux de chômage qui est allé jusqu'à 15%. Alors je ne pense pas que notre optimisme soit lié à notre situation économique. Mais étonnamment, la perception des gens par rapport à leurs propres conditions n'est pas toujours basée sur des réalités objectives. Un chercheur en sciences politiques français s'est intéressé à cela en France et a démontré que oui, vous comptez de nombreux pessimistes dans votre pays. Seulement 30% des Français pensent mener une meilleure vie que celle de la génération de leurs parents. Mais en fait, plus d'un Français sur deux a eu une meilleure vie que ses parents, avec un salaire plus élevé, un confort de vie plus agréable. En fait, en France, il y a plus de gens qui pensent qu'ils sont perdants qu'il n'y a de vrais perdants.
Vous pensez qu'il y a un pessimisme bien français, bien ancré en France ?
Quand on regarde d'autres pays très différents, on comprend à quel point cette notion est en partie culturelle. Aux États-Unis, on sent que les gens sont souvent plus optimistes. Et pour moi, cela s'explique par le fait que quand on paraît pessimiste aux États-Unis, cela signifie qu'on a perdu, qu'on a échoué. Alors que mes amis français me disent qu'en France, être pessimiste par rapport à l'état du monde peut faire de vous un intellectuel, un penseur profond qui réfléchit et qui lit des livres intéressants. Et du coup, dans cette vision française, tous ceux qui sont heureux le seraient simplement parce qu'ils manquent d'intelligence.
Voilà, je vois qu'effectivement, sur le French bashing, ça ne vous a pas échappé, ça vous a bien fait rigoler, les tchatcheuses.
Ah oui. Ah bah, mon père me disait toujours, les gens heureux sont limités intellectuellement, vous voyez. Donc, effectivement, quand voyez, on a grandi dans une famille française.
Mais il faut s'attendre. On dit brave et béate.
Brave et béate, non, voilà.
Après, il y a être heureux et en société aussi, faire la part des choses, c'est-à-dire donner le change. On peut voir le monde de façon très pessimiste.
Bon, ben alors Samira, vous venez plutôt d'une culture de l'optimisme ou du pessimisme ?
Non, mais moi je suis très pessimiste. Quand je vois le monde, je dis par exemple, il faut être pragmatique. Quand on parlait des prénoms tout à l'heure, je dis évidemment, les gens aujourd'hui sont fermés, n'acceptent pas la différence de l'autre, donc il faut être pragmatique. Mais en société, avec les gens, je suis avenante, souriante, je dis, je suis toujours positive. Et souvent, ça, je me rends compte, je ne supporte pas, moi, les gens qui font la tête dès le matin, pour qui tout va mal, ça me déprime. Et alors, quand quelqu'un va me dire « Ah, bah pour te rassurer, je vais pas mieux non plus », bah ça me rassure pas du tout. Là, je préfère, quand je suis pas bien, rencontrer des gens qui vont mieux que moi, comme ça, au moins, je suis dans une bonne dynamique.
Anna Navarro, Pedro.
Oui, vous savez, c'est cette vague est là, la vague de l'optimisme. Après la grande vague du déclinisme, du pessimisme, dont les Français, dont certains intellectuels français ont excellé, c'est vrai.
Finkielkraut.
Sócrate, pour ne pas le nommer, le grand philosophe.
Et pas que. Eh bien, oui, on va avoir la vague du optimisme, chouchou et optimiste. Ça va être ça, vous allez voir ça. Parce que déjà Macron, votre président, là, il a été élu parce qu'il était optimiste et joyeux, n'est-ce pas? Il vous promettait un avenir souriant, radieux, etc. Donc, vous voyez, on va avoir ça parce que, bon, c'est une...
Bah, grâce à lui, on va peut-être dire dans le monde que les Français ne font plus la gueule.
Mais
vous voyez,
oui, on a besoin.
Ben, vous ferez toujours la gueule, j'espère. C'est votre trait constitutif.
Ça me manquerait, un Français qui ne fait pas la gueule.
Non, mais attendez, c'est
quoi ? Ça me manquerait quelque part.
Non.
Parce que chaque fois que je prends l'autobus, j'écoute les conversations des autres, les journalistes ont toujours les oreilles qui traînent partout. Et là, bah, j'ai la maladie de foie, j'ai ceci, j'ai cela.
Mais attention,
les services publics ne marchent pas bien.
Attention.
Tandis qu'on est dans un bus bien chauffé ou bien refroidi, bien conditionné, on est confortable. Et c'est pour ça qu'on se plaint.
Vous revendiquez quoi alors, lucidité au lieu de pessimisme?
Je préfère quand même parce que le monde va... c'est vrai toutes ces statistiques, mais après il faut regarder derrière la Banque mondiale, manchette récemment. Oui, il y a de moins en moins de pauvreté dans le monde, mais il y a de plus en plus de pauvres. Va comprendre, lis le rapport.
Moi je voudrais dire, Anna, sans te couper, si les Français n'étaient pas aussi pessimistes, il n'y aurait pas tout ce confort
exactement,
dont tu parles aujourd'hui.
Exactement,
il n'y aurait pas tous ces droits. Aujourd'hui,
ça
vous allez à l'hôpital.
Locomotive.
Voilà, on ne vous demande pas si vous avez vos papiers, si vous pouvez payer ou pas. On vous soigne d'abord. Et ce n'est pas le cas dans tous les pays, même
exactement.
Ceux qui se revendiquent des religions les plus importantes.
Ce n'est certainement pas le cas en Grande-Bretagne.
N'est-ce pas ? Ou aux États-Unis. Donc, peut-être pessimiste, mais voilà, c'est ce qui leur permet d'avancer et d'avoir des droits incroyables. Et en même temps, tout dépend de nous, parce que quelqu'un de pessimiste, si vous avez le sourire et si vous êtes optimiste, va peut-être guérir de sa maladie.
Oui, et puis attention qu'on ne nous impose pas la grande vague de l'optimisme en se disant « oui, la vie va plus mal pour toi » parce que les politiques qu'on fait sont mauvaises pour toi, mais tu vas sourire.
Merci à vous les tchatcheuses, Samira Ibrahimana, Navarro Pedro, Veijou Naravan. Vous revenez quand vous voulez. Thomas Delpech dans l'équipe, Camille Néron, Hugo Violas était également avec nous. Demain, 7 milliards de voisins. Faut-il rentrer au pays après des études ou une expérience professionnelle à l'étranger? Je reçois plusieurs jeunes Africains, ceux que l'on appelle souvent les repattes. Ne m'en...
Salut, ce soir...